Voilà, bonjour à tous et à toutes, Église de l'Épi, heureux de vous retrouver pour cette célébration de rentrée. Alors si c'est la rentrée pour nous, la rentrée de la petite enfance se fera la semaine prochaine. Il y a juste un accueil pour les tout-petits, donc encore un petit peu de patience pour les parents. Cette semaine, c'est encore les enfants avec les parents, sauf pour les tout-petits. Mais on veut vivre un temps tous ensemble pour louer Jésus. Est-ce qu'il y a une église sur Internet et ici qui a envie de louer Jésus dans ce lieu ce matin? Si c'est votre cas, je vous invite à vous lever. C'est encore un jour pour le rencontrer, un jour pour être au bénéfice de son amour et de sa grâce. C'est ce qu'on veut proclamer ce matin. Alors on va laisser nos soucis de côté pour louer Jésus ce matin. Amen.
Reste au loin, je ne tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Car voici le jour. De rien, à toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour. Tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Car voici le jour. Oh, oh, oh.
Pour toi, Seigneur, je vivrai. Alors, les hommes avec moi et les femmes, répétez avec les femmes. Messieurs, ça va être à nous. Sortez vos plus belles voix.
Pour toi, Seigneur, je vivrai.
Pour toi, Seigneur, je vivrai.
Fondé sur ta vérité. Seigneur, je vivrai.
Pour toi, Seigneur, je vivrai.
Fondé sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Je n'aurai pas peur pour demain, mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin, mon espérance est en toi. Car voici le jour.
Tu nous as sauvés, c'est ce qu'on veut chanter dans ce prochain chant qui est un nouveau chant pour l'Épi qui s'appelle Égypte. qui va nous parler de comment Dieu a délivré le peuple d'Israël de la captivité en Égypte, mais qui pointe vers une libération plus grande, celle de la libération de notre péché. Et c'est ce qu'on veut déclarer au travers ce chant, où on ne veut pas oublier tout ce que Dieu fait pour nous, comment il est venu nous chercher de la boue de notre péché, comment il est venu remettre une espérance dans nos cœurs, dans nos vies, une direction. Et c'est ce qu'on veut déclarer ce matin au travers de ce chant. Alors vous allez voir, il s'apprend tout seul, mais on veut vraiment le déclarer avec foi ce matin.
Je n'oublierai aucune de tes merveilles, quand par l'exode tu vins affranchir mon cœur, à trouver libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia, alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit et une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia, alléluia.
On le déclare, Seigneur, tu combats.
Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia, alléluia.
Merci Jésus, parce que tu nous as sortis, tu nous as délivrés. Nous avons accès, Seigneur, à la vie de ton esprit qui nous amène à marcher en nouveauté de vie avec toi. Libre de la culpabilité, libre de la honte, Seigneur, tu veux faire de nous un peuple de rachetés. Et on veut le déclarer encore ce matin. Ta paix nous remplit, ta paix nous inonde, Père, parce que tu es celui qui vient dans notre Égypte. Alléluia.
Dieu, tu vins dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vins dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort n'a jamais emporté par la lueur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia,
alléluia. On le déclare ce matin.
Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia. Tu as déchiré la mer et tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, alléluia.
Merci Père, parce que c'est une réalité qu'on peut saisir encore aujourd'hui. Les choses qui nous semblent impossibles, tu les rends possibles. Tu peux nous libérer parce que tu as donné ta vie, Seigneur, à la croix, qui n'est pas restée au tombeau, mais tu es ressuscité. Et le même esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts est en tous celles et ceux qui décident de faire confiance à Jésus. Et il peut nous faire sortir de nos impossibilités, c'est ce qu'on veut chanter ce matin. Tu es le Dieu de l'impossible. Avec toi, Seigneur, on peut accomplir des exploits. Et c'est ce qu'on veut déclarer, Jésus. Ce matin,
louange et gloire à jamais, à lui soit tout l'honneur, puissance. tout accompli, tout accompli, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite.
La musique continue, on va s'approcher de Dieu maintenant de manière collective. Peut-être tu fais face à des impossibilités en ce moment. Et j'aimerais qu'alors qu'on est dans cette atmosphère de foi où on déclare qui est Jésus, est-ce qu'il peut faire, est-ce qu'il est capable de faire dans nos vies, qu'on puisse s'approcher de lui avec foi ce matin pour remettre nos situations. Il nous a dit de faire connaître tous nos besoins par des prières et des supplications, et c'est un temps comme cela ce matin qu'on veut vivre. On croit que lorsqu'on est assemblé aussi, Dieu peut, est capable de passer dans les rangs. Il est puissant pour agir dans ta situation qui te semble impossible ce matin. Alors on va élever la voix tous ensemble ce matin pour s'attendre à celui qu'on vient de chanter, qui est capable de rendre l'impossible possible. On peut élever la voix ce matin. On traverse tous des situations. Il y a tous des défis, qu'ils soient communautaires, familiales, individuels, professionnels. Dieu est capable. Il est capable de nous libérer. Il est capable de nous conduire, de nous accompagner. Je ne sais pas à quoi tu fais face ce matin, mais le géant peut tomber. Le géant peut tomber lorsque Dieu est dans la partie. Il est capable d'agir. Alors on veut s'approcher avec foi ce matin. Peut-être s'il s'agit d'une addiction, quelque chose qui te tient lié depuis tant d'années. Il est capable de te libérer. Alléluia Jésus. Seigneur, on veut s'approcher de toi avec foi ce matin dans ce lieu. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ton cœur veut se déverser, je le crois ce matin. Je crois que tu veux agir dans des situations qui sont comme bloquées. Là où les gens, tu te sens comme lié, comme écrasé. Jésus veut relever ce matin quelqu'un. Il veut communiquer sa paix surnaturelle qui fait la différence encore aujourd'hui. Seigneur, on s'approche de toi avec foi et avec confiance que tu es le Dieu de l'impossible. Merci Père parce que tu es celui qui a promis d'être avec nous. Tu es celui qui ne nous abandonne pas. Église, est-ce que je peux entendre votre voix ce matin? Élevez celui qui est capable de tout dans ce lieu. Alléluia Jésus. Manifeste-toi Père éternel. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Tu vois, il y a peut-être de l'incrédulité ce matin Seigneur. Et dire c'est pas possible pour Dieu ça. Cette situation elle est verrouillée. Il est le Dieu qui fait sauter les verrous, je le crois encore ce matin. Et je veux le déclarer. Saint-Esprit, je te prie de faire l'œuvre que toi seul es capable de faire dans ce lieu. Dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos corps ce matin. Alléluia Jésus. Tu es celui qui relève celui qui est malade. Tu es celui qui a ouvert les yeux des aveugles. Tu es celui qui a amené des morts à la vie. Et tu peux amener des situations mortes à l'existence ce matin encore. Alors qu'on déclare que tu es le Dieu de l'impossible dans ce lieu, Jésus. Alléluia, Jésus, souffle. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus.
Je te conduirai.
tu es belle. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur, on veut encore déclarer ce matin que tu es le rocher sur lequel on peut bâtir notre maison. Seigneur, tu ne nous as jamais promis qu'il n'y aurait pas de tempête dans la vie, mais tu nous as invités à fonder notre vie sur le roc. Et lorsque la tempête viendra, la maison tiendra ferme parce qu'elle sera enracinée en toi. Et c'est ce qu'on veut déclarer par ce chant qui dit « Jésus, mon rocher, ma confiance est en toi seul. Dans l'orage, tu demeures Dieu, Seigneur. » On veut le déclarer comme une prière ce matin. Tu es le rocher, Seigneur, fidèle et sûr. Seigneur, il y a tellement de sources d'espoir qu'on a pu mettre dans des choses qui se sont effondrées. Et nous avons une certitude ce matin, c'est qu'il y a quelque chose qui ne bouge pas, un fondement solide, c'est notre Dieu ce matin dans ce lieu. Et c'est lui qu'on veut proclamer encore ce matin. Alléluia, Jésus.
Et seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux pas d'autre Dieu.
Reprends ce couplet en Christ seul.
Seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre que lui.
Et on va le déclarer tous ensemble ce matin, Jésus-Christ.
Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. sainteté, revêtu de sainte justice et semblable devant.
Le Dieu qui n'est pas dépassé ce matin dans ce lieu. On veut le célébrer et lui dire à lui toute la gloire. Amen. Amen. Avant d'écouter Mathieu, ce que Dieu a mis sur son cœur pour cette célébration de rentrée, je voudrais juste communiquer quelques annonces et on va demander à Mélodie pour le staff jeunesse de venir nous parler de la rentrée. Bienvenue Mélo.
Bonjour à tous. J'ai une bonne nouvelle pour les 18-30 ans. Le groupe Épigène redémarre. Ce sera samedi 13 septembre, samedi prochain à 18h à l'Épi, ici même. Alors si tu es étudiant, jeune pro, jeune parent, jeune marié, ou bien tout ça à la fois, tu as ta place, ok ? Alors note bien, cette date, c'est un groupe où tu peux connecter avec d'autres jeunes, grandir dans ta foi, avancer dans tes projets. Alors n'oublie pas, je te vois. Samedi prochain à 18h à l'EPI, ok ?
Merci Mélodie, elle est motivée, motivante, hein ? Yes ! Une autre annonce, il y a une petite vidéo qui devrait partir normalement pour la célébration du CNEF 67.
Les célébrations, c'est d'abord l'occasion de nous réunir après deux longues années pour notre culte en commun. C'est l'occasion de vivre la communion fraternelle, non seulement ici, mais avec nos frères et sœurs de toute la France, et de manifester ensemble notre unité en Jésus. Enfin, c'est aussi l'occasion de célébrer 500 ans de protestantisme évangélique en Alsace. Alors, réservez la date du samedi 4 octobre. On vous attend avec impatience au PMC.
Partout en France, les évangéliques se regrouperont autour du thème « Jésus-Christ seul ». À Strasbourg, nous nous retrouverons au cœur de la ville dès le matin pour aller à la rencontre des Strasbourgeois. Puis à partir de 15h30, rendez-vous au Palais de la Musique et des Congrès pour nos portes ouvertes. Village les associations, expositions, animations, food truck, il y en aura pour tout le monde. À 17h, nous nous retrouverons pour un grand culte en commun avec Michel Marvan, accompagné par le groupe MMK. Et un accueil spécial est prévu pour les enfants et les ados. Et à 20h, soirée louange et témoignage avec un groupe de louanges inter-église. Un seul jour, une seule église, un même cœur. Célébration 2025.
On t'attend.
Soyez bénis.
Un temps de fête, on manque pas ça, il y aura de la louange, de l'évangélisation de rue, une célébration où tous ensemble on va glorifier Jésus sur notre ville et déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc ne manquez pas cette date, n'oubliez pas de vous inscrire, vous pouvez le faire directement sur le site internet et sinon vous pouvez aller à l'espace vie d'accueil, espace vie d'église, espace vie d'église pour laisser vos coordonnées et pouvoir être inscrit par l'équipe. Une dernière annonce, le dimanche 12 octobre, ce sera les portes ouvertes de l'église, comme chaque année, c'est l'occasion peut-être d'inviter quelqu'un, de voir que la foi, elle est vivante, que ça fait la différence, qu'il y a des hommes et des femmes bénévoles qui s'engagent pour permettre à ce que le message de Jésus soit proclamé et annoncé. Donc c'est aussi le temps pour vous peut-être qui venez d'arriver sur Strasbourg, de découvrir un peu l'EPI, ses services, son cœur, ce qui l'anime, sa vision, sa passion. Donc manquez pas cette date, ça sera une célébration spéciale, vous allez voir, une célébration un peu plus raccourcie. Pour permettre de découvrir l'église et tous ces espaces. On aura tous nos responsables et bénévoles qui sont sur le qui-vive pour vous faire découvrir ce que cette église fait encore sur cette ville, avec les autres églises bien sûr, mais on croit que Dieu nous a donné un mandat particulier pour faire la différence. Amen. Donc le dimanche 12 octobre, et maintenant je vais inviter Mathieu à s'approcher, je vous invite à vous lever pour ceux qui le peuvent et on va prier pour cette célébration de rentrée, qu'on vraiment puisse être à l'écoute ce matin de ce que Dieu veut faire dans nos vies et dans nos cœurs et ce qu'il a mis sur le cœur de Mathieu. Père éternel, je te remercie pour ta présence dans nos vies. Je te remercie, Jésus, parce que tu es ce Dieu vivant qui veut nous conduire, qui veut impulser en nous, Seigneur, une passion pour toi, une passion pour notre ville, une passion pour notre nation, une passion plus large pour ce monde, Seigneur. Dans un monde en souffrance, Seigneur, tu nous as appelés et qualifiés à être tes pieds et tes mains en action. Et c'est ce que nous voulons faire encore ce matin, être à l'écoute de la voix du bon berger et nous laisser conduire et diriger par toi. Alors je te prie pour Mathieu, ce que tu as déposé sur son cœur et que vraiment ça puisse venir encore chercher nos cœurs ce matin, Père. À toi la gloire et la louange, Jésus. Amen.
Tellement pressé de vous encourager.
Voilà, bonjour à chacune et à chacun. Je m'appelle Mathieu Thoman. Je suis parti de l'équipe pastorale, je suis parti de cette église locale, une des expressions de l'église de Jésus-Christ ici à Strasbourg. Je suis très heureux de cette célébration de rentrée. Et d'emblée, je voudrais vous poser une question. Quel est votre rapport à vos pieds ? Je vous laisse. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui sont totalement à l'aise, qu'ils peuvent prendre une photo de leurs pieds et le mettre sur les réseaux sociaux ? J'ai une amie, elle fait ça. Moi-même, je suis gêné. Est-ce que vous faites partie de ceux qui les cachent ? Parce que vous les trouvez moches. Peut-être que vous pratiquez un sport aussi, et j'ai découvert que non seulement le foot ou autre, mais les pieds des footballeurs, c'est juste horrible, ils sont souvent usés, souvent en proie à plusieurs problèmes, etc. Et du coup, ils sont pas toujours très beaux à voir, les pieds d'athlète. Est-ce que vous êtes comme moi, pendant plusieurs années, d'avoir eu honte de mes pieds parce qu'ils avaient été fragilisés par une ou l'autre maladie type champignon. Le rapport aux pieds. Les pieds sont souvent une partie du corps qu'on cache, qu'on protège. Et c'est justement sur cette partie du corps que Jésus va prêcher un des plus importants messages pour l'Église de Jésus-Christ. Un message qui en même temps sera profond, autant que déroutant. Ce message dérange. Ce message va bousculer les disciples qui étaient avec Jésus à ce moment-là. L'histoire se trouve dans Jean, le chapitre 13, et on va lire ensemble quelques parties de ce chapitre. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. avant la fête de la Pâque. La Pâque était et est toujours une fête juive très suivie. Elle rappelle quelque chose d'important pour ce peuple. La libération d'Israël de l'esclavage à ce moment-là de l'Égypte. Dieu avait demandé à chaque foyer hébreu, à chaque famille, d'offrir un agneau innocent qui serait le signe pour attester que ce foyer appartient à Dieu, que ce foyer a foi dans un Dieu qui sauve à ce moment-là. Et des centaines d'années plus tard, Jésus est littéralement en train de devenir cet agneau parfait, cet agneau innocent. Au moment où nous allons lire cette histoire, Jésus est en train de se préparer à être l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'agneau de Dieu qui offre la liberté spirituelle à celui qui placera sa confiance en lui. À ce moment précis de l'histoire, Jésus a toutes les raisons de baisser les bras. Il sait que la croix s'approche dangereusement. Il sait qu'il va subir un des sévices les plus atroces qu'un être humain à cette époque peut vivre. Ses disciples, ils sont cool, ils sont bien, mais ils sont lents à comprendre. Il veut leur partager tellement de choses, mais il dit, mais vous êtes lents à comprendre. Il aimerait ouvrir plus son cœur, mais les disciples sont incapables de saisir l'ampleur de l'enjeu qui se joue là maintenant. L'un d'eux, dans les 12, de ses plus proches, de ses disciples, de ceux qui le suivent, est sur le point de le trahir pour 30 pièces d'argent. Malgré tout cet environnement toxique à sa foi, Jésus va continuer à aimer Dieu et à aimer ses disciples jusqu'au bout. La Bible dit « jusqu'à l'extrême ». Ce qui est intéressant avec l'évangile de Jean, c'est que l'évangile de Jean commence en nous présentant Jésus comme le Messie. Jean pointe comme un signe Jésus en disant c'est lui, c'est le Messie, c'est lui, c'est le réconciliateur, c'est lui, c'est le libérateur, c'est lui, c'est le sauveur, c'est lui, c'est le roi glorieux. Celui que vous attendiez, c'est lui, c'est celui qui va vous communiquer sa force. Et ici, à ce moment du récit de Jean, le thème va changer complètement. Jésus se révèle plus simplement comme le roi, mais il se révèle comme le serviteur. Celui qui prend la place de l'esclave, du doulos. Et là, pas serviteur des foules, pas serviteur dans notre esprit du prochain, celui qu'on connaît pas, non. Serviteur de ses disciples, serviteur de ses frères et de ses sœurs dans la foi. Nous ne sommes plus dans le ministère public. Nous ne sommes plus dans le ministère de puissance publique, dans la démonstration spectaculaire. Nous sommes dans l'intimité d'un repas que nous allons prendre dans un instant. Nous sommes dans la vie quotidienne. Nous ne sommes plus dans les rues. Nous sommes à un endroit d'intimité, un endroit de profondeur relationnelle, un endroit où on vit des hauts et des bas, un endroit où on se pose et on dit ce qui va, ce qui va pas. Et là, c'est un des moments les plus bas de la vie de Jésus. Et c'est dans ce contexte que Jésus choisit, alors qu'il a toutes les raisons d'abandonner, Jésus choisit de les aimer jusqu'à l'extrême. Jésus choisit de les aimer jusqu'au bout. Et c'est tout le défi de l'enseignement du Christ dans Jean chapitre 13. Jésus est en train de simplement nous dire que c'est bien souvent dans les moments les plus difficiles de notre histoire, dans les moments les plus sombres de notre histoire, quand les ténèbres s'épaississent, quand tout nous pousse à abandonner, c'est souvent là que la lumière de Dieu va briller. C'est souvent là que Dieu va manifester sa gloire. Et un autre texte me vient à l'esprit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Jésus est tout à fait cohérent avec tout le message du Nouveau Testament. Le lavage des pieds. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Dans ces régions qui sont souvent chaudes, il y avait beaucoup de sable, beaucoup de petits cailloux. Et les pieds, comme on marchait en sandales, étaient souvent exposés à plusieurs choses qui faisaient qu'ils étaient souvent poussiéreux, souvent abîmés. Et dans la culture, on essayait d'arriver à table en ayant au préalable lavé nos pieds. C'était important d'avoir les pieds propres quand tu rentres dans la maison, de bien secouer tes sandales, de bien faire en sorte que ce soit propre. Et normalement, ce travail était réservé aux esclaves. On retrouve aussi le lavement des pieds dans la Bible. Par exemple, quand Abraham va accueillir ces fameux trois hommes et qu'il dit qu'on aille chercher un peu d'eau pour leur laver le pied, reposez-vous sous cet arbre. Lot aussi va accueillir les anges du Seigneur à Sodome et il va dire, voici mes seigneurs, entrez donc dans la maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous laverez de bon matin et vous continuerez votre chemin. Et il y a ainsi d'autres textes de la Bible qui va nous inviter à cela, pas simplement dans l'Ancien Testament. Ça, j'ai découvert pendant mon étude. J'avais lu plein de fois ce texte et je l'avais pas constaté. Mais aussi concernant l'hospitalité dans le Nouveau Testament. Dans Timothée, par exemple, concernant les veuves, si elle a été reconnue pour avoir élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, des disciples, secouru les malheureux, pratiqué toutes sortes de bonnes œuvres. Donc c'était une pratique qui était bien présente ici. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'avec Jésus, nous ne sommes pas juste dans un déroulement normal, culturel, du lavement des pieds. Nous ne sommes pas dans une pratique coutumière du lavement des pieds. Linda Hoyer ou Hoyer, je m'excuse, je ne sais pas bien comment le dire, est une théologienne protestante. Et elle va faire une remarque, elle a écrit un livre intéressant sur le lavement des pieds. Elle a écrit un livre et elle dit ceci dans ce livre. « Jésus ne lave pas les pieds à l'accueil, comme on le faisait d'habitude, mais en plein repas. » Ça, dans la culture, c'est un peu bizarre. Ce décalage montre bien que son geste sort du cadre habituel. Ce qui n'est pas normal non plus dans le lavement des pieds, c'est qui est en train de laver les pieds. En temps normal, ce sont les esclaves, comme je l'ai dit, de bas rang qui lavaient les pieds. Ce n'est pas les maîtres de la maison. Ce qui est intéressant, c'est que personne n'a proposé à Jésus de lui laver les pieds alors que tout le monde l'appelle Seigneur, Seigneur, Maître, Maître. Ça me parle. Je peux l'appeler Seigneur, Maître, Maître, pourtant oublier que j'ai un service à lui donner. J'ai un service envers lui. On est face à un enjeu qui dépasse le simple cadre de la coutume. Il touche à la question du rang, du statut social, des valeurs de la société. Il touche à plein de domaines. Et c'est pour ça que un autre théologien qui a parlé sur le sujet, qui s'appelle Jacques Nussbaumer, dit ceci, le geste de Jésus est profondément transversal. C'est-à-dire que là, ça touche à plein de choses différentes et il est subversif. C'est-à-dire que là, il vient à la rencontre d'un certain nombre de choses et notamment subversif par rapport à l'ordre établi. Jésus, le maître, Dieu fait homme, prend la place du serviteur, du doulos, du moindre de tous et lave les pieds de ceux qui devraient lui laver les pieds. Alors il y a plusieurs messages derrière le lavage des pieds. J'en épingle trois pour nous ce matin. C'est pas qu'un geste de politesse. Jésus n'est pas juste poli. Il lave pas juste les pieds pour dire bienvenue, bonjour et voilà, j'ai fait un petit geste de politesse. Non, il y a des enseignements profonds derrière pour chacune et chacun d'entre nous. L'humilité, un des premiers enseignements, c'est que l'humilité, c'est accepter la place du serviteur. Accepter d'être un serviteur. Un deuxième enseignement qu'on va voir, c'est que personne n'est trop grand pour servir son frère et sa sœur dans la foi. Et troisièmement, que un amour qui est concret, c'est un amour qui va aller jusqu'à ce que ça coûte réellement quelque chose. Jésus est en train de nous dire que dans le royaume de Dieu, la vraie royauté, c'est de servir. Pas de dominer, pas d'être reconnu, mais d'aimer jusqu'à ce que ça nous coûte. Alors tous les chrétiens connaissent ce message, c'est la base de notre foi. Alors on va essayer de replonger dans notre foi profonde, dans l'essence même de ce qui fait un chrétien, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et on va essayer d'explorer ces trois dimensions de l'humilité, du service aux frères et aux sœurs dans la foi et de l'amour qui coûte. L'humilité d'accepter la place de serviteur. Dans mes lectures, j'ai lu cette phrase et je trouvais qu'elle était vraiment intéressante. Rien ne tue autant le service que notre orgueil. Rien ne tue autant le service que notre orgueil. Et l'orgueil, c'est des fois un orgueil qui dit « je ne suis pas assez bien ». Ah non, tu comprends, de la fausse humilité. Là. Mais c'est aussi « oh là là, mais je suis pas assez reconnu. On me donne à faire ça, mais moi, je devrais devoir faire ça. » Des fois aussi, c'est la notion de « mais non, ça va pas assez me valoriser ». On le dit pas comme ça, mais si on fait un petit peu un check-up ou un bilan de santé spirituelle, parfois il y a des choses comme ça où on va dire non, mais parce que nos motivations profondes, c'est que on n'a pas envie d'être le doulos. Ou alors on n'a plus envie d'être le doulos, parce qu'on l'a mal vécu. Alors je me suis posé cette question. Combien de pieds Jésus a-t-il lavé ce soir-là? 12 paires, 24 pieds, 120 orteils. Et parmi ces orteils, 10 orteils appartiennent à Judas. Un de ses plus proches collaborateurs, ces 10 orteils appartiennent à quelqu'un qui va le trahir, comme je l'ai dit, pour 30 pièces d'argent. 10 autres orteils appartiennent à Pierre, son disciple de confiance. Il fait partie du fameux trio et qui va pourtant renier par 3 fois Jésus-Christ. Et les 100 autres orteils, ils représentent les disciples qui vont tous disparaître, tous se cacher, tous fuir pendant le service le plus important de la vie de leur Seigneur, le service de la passion, le service de la crucifixion. Alors des fois, on spiritualise beaucoup en lisant la Bible. Alors j'aimerais nous inviter à ne pas tout de suite tout spiritualiser et oser se poser la question. Est-ce que j'accepterais de laver... Réponds pas tout de suite, Raymond Pierre. Moi non plus, je ne suis pas à l'aise avec ça. Est-ce que j'accepterais de laver les pieds d'une personne avec qui je suis en conflit? Pas juste une personne que je connais, mon épouse, mon enfant. Ce qui est beau, c'est qu'on a tous lavé les pieds de nos enfants. Ça va. Mais laver les pieds de son ennemi. Est-ce que moi, je suis prêt à laver les pieds, c'est-à-dire à servir, à pardonner, à donner du temps, à faire un geste humble envers une personne, un geste qui va me coûter, pour quelqu'un qui m'a blessé, quelqu'un qui me blesse encore. Et si le geste des lavements des pieds te paraît lointain, que pour toi t'es mal à l'aise avec ce contexte pratique, de se poser la question, suis-je prêt à donner quelque chose qui me coûte en dignité, en temps, en image, à quelqu'un avec qui la relation est mauvaise? Imaginez devoir offrir un cadeau, le Saint-Esprit vous dit, tu vas offrir un cadeau qui te coûte à ton pire collègue de travail. Celui qui te pourrit la vie. Mais quand je te dis te pourrir la vie, vous avez tous un prénom en tête. Collégien, collégienne, dans votre classe, imaginez Dieu vous dire, tu vois celle-là qui te dévisage à chaque fois que tu viens en classe, et dès qu'elle entre avec sa copine, ça fait... Et tu sais qu'elle parle sur toi, tu le sais. Le Saint-Esprit dit, je vais te conduire, t'aider à offrir à cette personne un cadeau qui va te coûter. D'une certaine manière, je vais te conduire à lui laver les pieds. L'Église, c'est la plus belle création de Dieu. Et en tant que pasteur, ça fait plus de 20 ans que je sers Dieu là. Ça reste pour moi la plus belle création de Dieu. Mais c'est aussi l'endroit où on se fait le plus mal parfois. À cause de l'indifférence, à cause des non-dits, à cause de nos vies aussi qui viennent polluer notre relation avec les frères et les sœurs dans la foi. Et c'est pour ça que Jésus, qui connaît toutes choses, Jésus, lui, il est en train de poser un acte prophétique. Il veut parler à l'Église. Il veut parler à l'Église de l'importance d'être un doulos les uns pour les autres. Jésus, il dit pas simplement « soyez gentils les uns avec les autres ». Donnez-vous 2-3 petits services les uns avec les autres. Faites un acte de politesse. Non. Jésus nous appelle à quelque chose de plus radical. Jésus est en train de nous dire par le lavement des pieds, livrez-vous les uns aux autres comme des esclaves, comme des doulos. La barre, oui, elle est haute, oui. Oui, elle est haute. Surtout qu'aujourd'hui, c'est très facile d'éviter ce genre de discussion. Très facile d'éviter les gens. On peut tout emmagasiner tellement à l'intérieur et paraître à l'extérieur que on peut arriver à peu près à s'en sortir. En fait, Jésus est en train de dire, occupez volontairement, la place la plus basse, sans reconnaissance, sans prestige. Et là, parfois, je m'inquiète. Parce que nous, l'Église, d'une manière générale, on peut être en danger. On peut être en danger si on ne fait pas attention à cela. De toujours se souvenir que l'Église, elle doit être connue, non pas comme celle qui règne sur les gens, mais comme celle qui sert les gens. Le Seigneur me dit, t'inquiète pas Matthieu, ils ont tous dit Amen dans leur cœur. Ah, c'est bon, je l'avais marqué, ça c'est bon. Jacques Nussbaumer encore dit, être un doulos, c'est accepter d'être à cette place moindre, ignorée du monde, ignorée de tout like, ignorée de toute prestance à dire, moi j'ai l'onction de ces... Non, c'est ignorée du monde, mais paradoxalement, quand on est un doulos, on est aussi plus proche des vrais besoins des gens. Un de nos collègues, pasteur ici en Alsace, a une expression qui nous a beaucoup encouragés, nous, les pasteurs de l'EPI. Il s'agit de Samuel Peter Schmidt quand il disait, mais c'est tellement important de sentir encore, en tant qu'église, sentir encore le mouton. Le mouton. Prenez cette image des chrétiens. Nous, chrétiens, nous sommes des brebis du Seigneur. Et que parfois, on parle, mais on sent plus le mouton. C'est-à-dire qu'on n'est plus en proximité les uns avec les autres. On est éloigné. Et être doulos, le message de Jésus, c'est sois doulos, parce qu'en étant un doulos, tu seras près de mon royaume, tu seras près de mon cœur, tu seras près des gens. Et là, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Là. L'humilité. Et puis après, il va un peu plus loin et il démontre ceci. Personne n'est trop grand pour servir son frère et sa sœur dans la foi. Personne n'était indigne d'être servi par Jésus ce soir-là. C'est intéressant quand même. Personne ne s'est trouvé indigne. Mais moi, il y en a au moins quelques-uns dans le groupe des 12 que je trouve indigne d'être béni par Jésus ce soir-là. Celui qui le trahit, ceux qui parlaient un peu derrière. Et pourtant, là, à ce moment-là, personne n'était indigne d'être servi par Jésus. Et j'aimerais le dire aujourd'hui. Encore là, maintenant, personne n'est indigne d'être servi par l'Église de l'épi. Personne. C'est pas votre parcours ici qui va faire que Dieu nous empêchera de vous venir en aide, de vous accompagner, de vous partager l'évangile, de vous aider à vivre une vie de sainteté avec Jésus. Il n'y a rien. On veut se laisser nourrir par cela. On veut empêcher toute pensée de dire un tel est indigne à cause de son parcours, un tel est ceci, un tel. Non, nous voulons être comme le Seigneur Jésus. Ce soir-là, il y avait des bonnes raisons pour que Jésus dise, toi, t'es indigne. Toi, ceci, toi, cela. Mais Jésus, il a trouvé personne d'indigne et il a lavé les pieds de tous ses disciples. Même au cœur des crises que tu peux traverser, même au cœur des opportunités que ton frère, ta sœur à côté de toi est en train de vivre et qui est positive aussi, peu importe ce qu'on est en train de traverser, nous voulons cultiver en nous cette pensée de Jésus-Christ que personne n'est indigne d'être servi, d'être accompagné, d'être aimé, d'être restauré, d'être pardonné, d'être relevé par Jésus-Christ. Jésus nous pousse dans nos retranchements. Il nous met dans les cordes. Personne n'est au-dessus du service et tout le monde peut être servi par l'Église. Seigneur, ta grâce. On ne peut pas snober le service, surtout quand il s'agit de prendre soin de l'humanité des gens. Jésus est en train de montrer des choses qui peuvent vraiment être des ennemis de notre foi pratique, des choses qui sont profondes en nous. J'en ai noté quelques-unes comme la notion de la paresse. Des fois, on est là à remettre à demain la dimension du service, et puis on va justifier par le fait, bah, Seigneur, est-ce que vraiment il en vaut le coup? Est-ce que vraiment ça en vaut le coup, quoi? L'orgueil, j'en ai déjà parlé. Et là, je vous parle pas de nos responsabilités du quotidien, de nos tâches essentielles de vie, non. Il s'agit d'une zone d'implication où Dieu nous appelle à agir pour prendre soin de nos frères et de nos sœurs dans la foi au sein de l'Ecclésia, au sein de l'Église, de la communauté des croyants rassemblés pour rendre visible une Église qui est universelle, une Église qui est invisible. Alors je sais, parce que j'ai grandi, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Depuis plus de 50 ans et même avant, le service de l'Église, parfois on a été très très fort, on a été très très loin. Dans les réunionnites, dans des services, on savait plus quand ça commence, quand ça s'arrête. On a servi jusqu'à ce que parfois même mort s'en suive. Et on a mis un tel accent sur les réunions, sur l'engagement, sur l'implication, que ce sont devenus des sujets crispants, même parfois des sujets tabous. On n'ose plus trop parler d'engagement en église parce qu'il y a eu beaucoup d'épuisement, parce qu'il y a eu beaucoup de pertes de sens, parce qu'il y a eu des excès. Oui, il y a eu des excès en église par rapport au service. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que par effet de balancier, avec tous ces excès, il se passe qu'on peut tomber dans un piège de mettre en distance, pour tenter de rééquilibrer la vie de l'Église et rééquilibrer nos vies, on met en distance le fait de s'impliquer avec excès, et on fait un effet de balancier, et là c'est « si je peux » ou « voilà, si je peux m'engager » ou et puis on veut plus trop en parler, et puis des fois on a perdu sa vue, parce qu'en plus on est happé par tellement de choses dans notre vie que servir nos frères, nos sœurs, servir la communauté. Et t'as plein aussi des fois malheureusement d'enseignants qui montrent, ah ouais non mais servir dans cette église là, dans ton bocal, non Dieu veut t'envoyer ailleurs dans les nations, non. Mais c'est pas ce que je lis ici. Et je crois que il y a un équilibrage à faire toujours. Et à l'épi, on fera attention à l'implication des bénévoles. Un service doit avoir un commencement et une fin. Il faut faire attention. Nous, souvent, on a une expression qu'on traduit en anglais du français. Je le dis d'abord en français. La famille en premier. Family first. Pour nous, la famille, c'est important. On veut pas que tu mettes en danger ta famille au détriment du service en église. On veut développer une culture saine du service, de l'implication. Mais on veut remettre le service à sa bonne place. Et personne n'est trop grand pour servir ses frères et ses sœurs dans la foi. Nous avons tous à nous poser devant l'œuvre de Jésus-Christ, devant le lavement des pieds de Jésus-Christ et de dire, Seigneur, comment je peux servir mes frères et mes sœurs? Comment je peux m'impliquer cette année? Et nous, notre engagement en tant qu'église locale, c'est de faire attention à l'équilibre de chacun aussi et que vous fassiez attention à votre équilibre de vie. On veut que cet endroit, cette communauté, nos services, nos ministères soient sains et saïennes. Alors on sera intentionnel là-dessus, mais on peut pas, à cause d'excès ou autre, mettre de côté cet enseignement du lavement des pieds de Jésus. Parce qu'il aurait pu laver les pieds des gens de l'extérieur, il a choisi de laver les pieds des gens de l'intérieur. Au lieu de dominer, Jésus sert. Il est le roi serviteur. Et dans le royaume de Dieu, aimer en acte, c'est la marque de fabrique des citoyens du royaume de Dieu. Ce qui a donné à Jésus la force de supporter l'insupportable devant son épreuve de la croix, devant la trahison de Judas, c'est de mettre le comble à son amour pour eux, de pousser son amour jusqu'à l'extrême et de dire « je vais tout de même les servir, je vais tout de même faire attention à eux ». Et ça lui a donné la force de supporter aussi la passion, l'œuvre de la croix, la joie profonde du ciel l'a animé quand il se tournait vers les besoins de ses disciples. En fait, il est en train de dire, je prends cher, mais je sais pourquoi je le fais. Je le fais par amour pour eux. Je le fais parce que c'est un commandement de Dieu, d'aimer Dieu, d'aimer mon prochain en parole et en acte. Et à ce moment-là, quand on comprend ces choses, la Bible dit, la joie de l'Éternel devient notre force. Enfin, l'amour vrai, c'est aimer jusqu'à ce que ça coûte. Pourquoi je vous parle d'aimer jusqu'à ce que ça coûte? Parce que dans le contexte, Jésus va montrer qu'il est en train de parler du salut. Et le fait que Jésus ait sauvé notre âme, ça a coûté quelque chose. Ça a coûté sa vie. Il arriva vers Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore la main et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin que de se laver les pieds, que de se, pardon, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. On parle pas juste de laver les pieds pour être pur, on parle d'une attitude de cœur, on parle de plusieurs choses ici. Et le lavement des pieds ici prend une dimension qui est sotériologique, c'est-à-dire qui touche à notre vie éternelle, qui touche au salut. Jésus est en train d'introduire ici quelque chose de totalement inédit dans l'histoire de la coutume du lavement des pieds. Il est en train de parler d'être lavé spirituellement. Il est en train de parler d'être lavé de ses péchés. Il est en train de parler de, pas simplement d'une propreté extérieure, mais il est en train de parler de l'importance d'une propreté intérieure. Il est en train de nous parler du salut. Le salut, c'est Dieu qui s'abaisse comme un doulos pour nous relever spirituellement, mon ami. C'est Jésus, Dieu fait homme, qui s'abaisse comme un doulos pour aller mourir la pire mort à la croix pour le pire pécheur que je suis. Le salut, oui, c'est une expérience qu'on appelle la nouvelle naissance. On vit la joie de Dieu, on sait qu'on est pardonné, mais le salut, ce n'est pas qu'une expérience de grâce. C'est une transformation jour après jour par la grâce. C'est ce que Jésus est en train d'enseigner ici. Tu as déjà été lavé, mais il faut que tu continues à te laver les pieds. Ce que je te fais, lui dit Jésus, tu ne sais pas maintenant ce que ça représente, mais tu comprendras par la suite. Et là, ce que Jésus fait et dit à Pierre, ça porte un symbole profond. L'enseignement de Jésus, le message de Jésus, le sens du service, même le salut, ce sont des choses qui sont dures à comprendre tout de suite. Je mets au défi quelqu'un de lever la main ce matin et dire quand moi, Jésus m'a sauvé, quand j'ai été touché pour la toute première fois par Jésus, j'ai tout compris au salut. Moi là, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Non. Il y a des choses qu'on ne comprend pas maintenant et qu'on comprendra plus tard. C'est pourquoi encore c'est un appel et à l'humilité, c'est un appel aussi à ne pas oublier la vision qu'a Jésus sur le service, et c'est aussi un appel pour nous à un amour qui coûte, parce que le salut, mes amis, ça a coûté la vie de Jésus. Ça a coûté sa vie. Le salut, c'est à la fois une expérience, comme j'ai dit, et un chemin qu'on appelle la vie chrétienne. Ce n'est pas être parfait tout de suite, ça c'est pas vrai. C'est pas être parfait tout de suite, le salut. C'est être en chemin, lavé par Jésus, progresser dans la sainteté. Simon-Pierre va alors dire à Jésus, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore la main et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. » Le point important ici, et ça c'était intéressant dans les lectures aussi, le point important ici, ce n'est pas la grandeur de la vie de péché de Pierre qui dit à Jésus avoir besoin d'être lavé entièrement. Le point important ici, quand Jésus parle, c'est que Jésus dit, le point le plus important, Pierre, c'est pas juste ta vie de pécheur, oui, t'es un pécheur. Mais le plus important, c'est que tu reconnaisses que tu as le besoin d'être sauvé par un sauveur. Que tu reconnaisses la nécessité d'un sacrifice, mon sacrifice, pour que toi tu sois lavé et pour que tu continues d'être lavé. En fait, avec nos mots d'aujourd'hui, Jésus dit à Pierre, « Pierre, tu es sauvé, mais tu continues à marcher, tu continues à tomber et tu as besoin de renouvellement quotidien. » En fait, en gros, il lui dit « Travaille à ton salut. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous les mettiez en pratique. » Quels sont les enseignements de Jésus pour son église locale de l'Épi ce matin? J'aurais pu vous partager l'histoire du lavement des pieds dans le christianisme. C'est passionnant, mais je n'aurais pas eu le temps, donc on va venir à l'essentiel ici. Jésus n'a pas fait du lavement des pieds un rituel religieux à commémorer comme on va le faire pour la scène. Non, non, parce que là, il donne un exemple qui va vers l'avant. La scène nous ramène sur ce que Jésus a fait pour pouvoir aussi être en paix aujourd'hui, pour qu'on puisse avancer demain. Là, le lavement des pieds, il y a vraiment quelque chose de l'ordre un élan. C'est quelque chose qui doit aller de l'avant. C'est quelque chose qui doit se propulser vers l'avant. C'est quelque chose qui doit te donner à être créative sur comment je peux agencer ma vie de tous les jours pour que je puisse prendre ma part dans le service des saints, prendre ma part dans le service auprès de mes frères et de mes sœurs, dans les dons et les talents que Dieu m'a donnés. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Non, Jésus donne un exemple à reproduire pour aller vers l'avant, servir nos frères, nos sœurs dans la foi, prendre soin d'eux et voir notre service nourrir en chacun de nous la joie de rencontrer Jésus, la joie de marcher avec Jésus, la joie d'être chrétien, la joie quand à un moment donné, on a affronté l'épreuve, on a pleuré, mais l'Éternel, quand on se retourne, dit jusqu'ici, l'Éternel m'a toujours secouru. Toujours. Et Jésus dit ceci, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Tu es heureux si tu laves des pieds. Tu peux être heureux si tu décides cette année scolaire de laver des pieds. Le bonheur ne vient pas du recevoir, on le sait, mais du fait de donner. Et le lavage des pieds, les amis, c'est un chemin. C'est pas une fin en soi, c'est un chemin. C'est pas le but ultime de notre vie de servir là ou de... Non, c'est un chemin. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Et là, c'est un chemin où, dans cette saison, je sers mes frères et sœurs de cette manière, peut-être dans une autre saison, etc., etc. Le lavement des pieds, c'est un chemin. Le lavement des pieds, c'est un chemin qu'on doit tous emprunter. Parce que Jésus, il a dit de pratiquer cela. Le lavement des pieds, c'est un chemin qui va commencer avec nos frères et nos sœurs dans la foi et qui va se terminer avec nos frères et nos sœurs dans la foi. Vous savez pourquoi ? Parce que si vous regardez à gauche et à droite, vous allez passer l'éternité potentiellement avec la personne qui est à votre droite et à votre gauche. Et je vous le dis, l'éternité, c'est long, surtout sur la fin. Alors si tu es déjà gavé là, il faut que la joie de l'Éternel t'envahisse du ciel pour que tu comprennes qu'il est doux et agréable de servir Dieu ensemble. Bien sûr, on ne devra jamais fermer les yeux, ni faire la sourde oreille aux besoins, aux nécessités, au contraire. On devra toujours être cette église qui, par le biais d'enjeux et d'autres actions, on est toujours là pour être à l'écoute. Mais une de nos priorités, c'est de répondre aux besoins des saints. Des saints, quand je dis des saints, c'est pas des gens parfaits, hein, c'est une expression de la Bible pour dire nos frères et nos sœurs dans la foi, dans notre église locale, cette église visible. Jésus, en fait, quand il dit « vous serez heureux », en fait, il est en train de nous dire que le chemin du service, le chemin du lavement des pieds va profondément te transformer. Il faut que tu sois prêt à être conscient que quand tu sers, tu es transformé. Quand tu sers, tu ne penseras plus jamais comme avant. Quand tu sers, ton réservoir d'amour risque, je suis désolé de le dire, d'augmenter. Tu risques d'être une personne beaucoup plus bienveillante. Je sais, c'est dur à entendre. Je sais, c'est compliqué de se dire, ouais, je vais servir et je vais ressembler plus à Jésus. Je sais que c'est dur à entendre. Je sais que c'est pas ce qu'on veut ici, ressembler à Jésus. Je sais, je te préviens, je dis, attention, danger, quand tu sers, tu ressembles à Jésus. Attention, danger, quand tu sers, tu es mieux équipé par rapport aux épreuves de la vie. Quand tu sers, tu développes ton oreille à entendre le cœur de Dieu battre pour les perdus. Quand tu sers, ça te transforme. Quand on sert, on passe de l'indépendance, on passe de l'indifférence, on passe de l'orgueil à de l'altruisme, à de l'humilité, à du désintéressement. Servir nous transforme. J'espère que vous avez un peu d'énergie, j'ai encore quelques petites choses à vous dire. Comment ça se pratique le lavement des pieds en 2025 à Strasbourg, dans une église locale comme la nôtre, avec les 600 agendas de vie que j'ai en face de moi ce matin? Et dans vos agendas de vie, il y a la famille, il y a le travail, il y a plein de choses. On a prié, on réfléchit et d'année en année, avec la succession des équipes, on essaie de trouver des portes d'entrée pour permettre à nos frères et nos sœurs de nous rejoindre pour pouvoir servir leurs frères et leurs sœurs. Et cette année, on voudrait vous proposer un apéro. Un apéro où on peut démarrer quelque chose. L'apéro start. Tu aimes jouer d'un instrument, tu sais que tu as une voix qui pourrait à peu près chanter juste ou qui chante juste. Ça se travaille de toute façon la voix, il n'y a pas de souci. Hein. On jugera personne ce matin. Peut-être que cette année, ton lavement des pieds, c'est la louange. Tu ne supportes pas de voir des trucs pas droits. T'aimes bien quand c'est propre. T'aimes bien quand les gens sont accueillis d'une bonne manière. Peut-être que ton lavement des pieds, c'est le service ménage. Pour toi, c'est important que les gens soient accueillis dans de bonnes conditions. T'aimes sourire, t'aimes aiguiller les gens, t'aimes... Le service accueil, c'est peut-être là qu'est ton lavement des pieds. Toi, t'aimes bien aimer dans la logistique, t'aimes bien quand on peut poser des tables et que les services viennent et puissent utiliser les tables que tu viens de poser. T'es quelqu'un, t'es un petit peu costaud, ou pas d'ailleurs, mais t'as des manières de pouvoir déplacer les choses ou quoi. Mais la logistique, c'est quelque chose qui est important pour toi. Peut-être cette année, le lavement des pieds pourrait être la logistique. Et je pourrais démultiplier les exemples ce matin. T'aimes la photographie, t'aimes capter les moments et témoigner, transmettre et dire voilà la beauté de l'église d'aujourd'hui, ou t'aimes diffuser le son ou autre, peu importe. T'aimes témoigner dans le contact de rue, t'aimes animer un groupe de maison, t'aimes quand les gens sont là et qu'on peut partager la foi. Il y a tellement de choses. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'il y a au moins un lavement des pieds pour toi qu'on peut essayer de trouver pour que tu puisses ressembler à Jésus. Alors je vous donne rendez-vous à cet apéro start, parce que c'est la porte d'entrée pour une église de la taille comme la nôtre, pour pouvoir être au contact de tous les services, de tous celles et ceux qui portent cela, de pouvoir découvrir aussi comment on peut, en 2025, à l'épi, laver les pieds des gens aujourd'hui. Je vais inviter l'équipe de louanges. Inscrivez-vous, comme ça on fait pas d'excès dans les achats ou quoi, on gaspillera pas, donc... À la fin de cette célébration, vous pourrez vous inscrire et participer au lavage des pieds général de l'église de l'Épi. En conclusion de mon message, j'aimerais dire ceci. Oui, suivre Jésus est un chemin qui est exigeant. On n'a pas choisi d'être chrétien par facilité, les amis. Parce que Jésus, c'est quand même le sauveur qui nous dit les vraies affaires. Notre vie chrétienne, elle a démarré quand Jésus a dit qu'on était pécheurs. Il nous a dit les vraies affaires. Et on a tout de suite compris que Jésus, il n'allait pas nous caresser tout le temps là dans le sens du poil, on savait. Mais on a tellement été touchés par l'amour de Dieu, tellement touchés par la grâce de Dieu, qu'on a dit « Jésus, sauve-moi, j'ai besoin de toi ». Et on est rentré dans cette marche chrétienne. Oui, le chemin est exigeant, les amis. Jésus ne nous appelle pas à suivre des chemins parfumés, facile, mais des chemins souvent de boue, tachés de sueur, parfois des chemins qui sont sales, qui sont inconfortables et parfois avec une mauvaise odeur, comme l'odeur des pieds parfois. Mais oui, ressembler à Jésus a un coût. Mais j'aimerais vous dire, au nom de toutes celles et ceux, les plus de centaines personnes qui servent ici, ça vaut le coup de servir Jésus. Parce qu'on voit des gens être touchés par l'amour de Dieu. On voit des gens revenir à la maison du Père. On voit des gens qui s'épanouissent dans l'amour du prochain. On voit littéralement des gens guérir dans leur peur de l'autre. Ça vaut le coup de servir Jésus, les amis. Ça vaut le coup de servir Jésus. Ça vaut le coup de servir Jésus. La beauté de l'évangile, la beauté de l'église, c'est de voir des disciples avec des serviettes sales, mais des pieds propres. Celle-là, je l'ai aimée, celle-là. Du coup, la vision de cette année, vous savez ce que c'est ? Que l'épi soit rempli de personnes qui ont des serviettes sales et des pieds propres. J'ai regardé, hein, sur les 100 dernières années, aucune église avait cette vision-là. On est les premiers. Non, c'est l'appel de Jésus au travers des siècles à son église. Qu'on soit une église avec des serviettes sales et des pieds propres. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu ce matin ? Je vais inviter l'équipe de la scène aussi à s'approcher. Et juste avant qu'il commence la distribution, j'aimerais qu'on puisse avoir un temps de silence, un temps de paix, un temps intérieur avec le Seigneur. Et je ne m'adresse pas qu'à des adultes ce matin. Je m'adresse à des ados, à des enfants qui sont dans ce lieu, à des papis, des mamies. Dieu veut t'aider à trouver ta serviette avec laquelle tu vas nettoyer les pieds. Il n'y a pas de formule toute faite. On vous propose un endroit où on va pouvoir se rassembler pour présenter les services, mais il n'y a pas de formule toute faite. On essaie juste d'avoir une porte d'entrée. Mais le plus important, c'est la parole du Saint-Esprit dans votre cœur, en fait. C'est pourquoi je voudrais nous inviter, avant de prendre la scène, à discerner les éléments qu'on va prendre maintenant. Les textes bibliques sont clairs. Il faut que nous discernions le corps et le sang de Jésus. Et si on a bien suivi le message de ce matin, nous savons que Jésus-Christ, ces éléments nous invitent à servir notre prochain, donc nos frères et nos sœurs. D'ailleurs, Jésus dira, j'ai désiré vivement prendre ce dernier repas avec vous, mes frères et mes sœurs. Donc juste avant la distribution, on va avoir un temps de silence intérieur, si vous le voulez bien. Un temps pour juste dire Saint-Esprit, merci parce que un jour tu m'as lavé. Et là, je m'adresse à tous les disciples de Jésus. La Bible dit d'un disciple que c'est quelqu'un qui a cru en Dieu, qui s'est repenti, qui a accepté le Christ dans son cœur. Et ce disciple a choisi de se faire baptiser par immersion. Et de dire, Jésus, tu m'as lavé. Merci parce qu'il y a des frères et des sœurs qui lavent mes pieds parfois par des services. Seigneur, c'est quoi mon lavement des pieds cette année ? Toi, ton lavement des pieds, ça a été de mourir à la croix. Et Jésus est encore dans le service ce matin, les frères et sœurs. Vous savez pourquoi ? La Bible dit que Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus a toujours la serviette sale pour qu'on ait les pieds propres. Laissons-nous toucher par l'exemple de Jésus-Christ. Laissons-nous toucher par le Saint-Esprit qui témoigne à notre esprit, qui dépose en nous, dans notre esprit, que nous sommes, nous aussi, enfants de Dieu. Laissons-nous interpeller par la personne du Saint-Esprit ce matin. C'est peut-être ta saison ou pas. On ne mettra aucune pression jamais sur le service. On veut faire attention à ça. Mais c'est peut-être le moment pour quelqu'un d'entrer dans cette dynamique de laver des pieds. Alors, juste un temps de silence, de réflexion intérieure, de cri à Dieu. On cherche ta volonté, Seigneur. Les éléments que nous allons prendre maintenant, Seigneur, nous rappellent que tu es mort à la croix. Non seulement pour nous sauver, c'est le salut, mais aussi pour servir, c'est le salut. Merci, Seigneur, de bénir l'église de l'Épi, bénir nos amis. Seigneur, nous avons besoin de toi. Continue à nous transformer à ton image. Aide-nous à ne pas dévier, Seigneur, de l'image profonde du Christ qui a été le roi serviteur. Nous avons besoin, Seigneur, de nous le rappeler. J'ai besoin de me le rappeler. Tu me fais une grâce incroyable de servir mes frères et mes sœurs. Seigneur, c'est dur. Cette vie est dure. Il y a tellement d'enjeux, il y a tellement de choses qui sont là. Mais je veux croire, Saint-Esprit, que tu vas nous accompagner pour que chacune et chacun puisse, dans son service, aider d'autres à avoir les pieds propres. Aider d'autres à avancer avec Jésus. Aider d'autres à aimer la parole de Dieu. Aider d'autres à se rassembler. Aider d'autres à être accueillis. Aider d'autres à grandir dans la foi parmi les enfants, les ados, les jeunes. Seigneur Jésus, oui, nous avons besoin de toi. Alors en prenant ces éléments, nous voulons les discerner. Et un des discernements, c'est de se dire qu'il représente le roi serviteur. Le roi qui lave les pieds de ses disciples. le roi devenu esclave. Un dernier texte pour nous, après quoi on pourra prendre les éléments, vous pourrez les prendre directement. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce sera de votre part un culte agréable. Ce texte, dans les originaux, est au présent continu. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'une journée. Un culte, le dimanche. Non, c'est pour ça qu'on appelle ces temps des célébrations. Parce que pour nous, à l'Épi, le culte, c'est à chaque jour que Dieu fait. Offrir son corps comme un culte, c'est à chaque jour. Mais là, maintenant, tout de suite, nous prenons ce repas ensemble. Nous voulons dire, Seigneur, nous voulons être une église avec des serviettes sales, mais avec plein de gens qui ont les pieds propres. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia, il en est digne.
L'équipe d'Enjeu vous remercie. Et je pense que ça va dans le fil du message, de la scène, de tout ce qu'on vit. Parce qu'on a vécu en ce dimanche un lavement des pieds particulier. Vous savez, depuis plusieurs mois maintenant, on nous encourage et on s'encourage à collecter des denrées pour les plus de 200 personnes à qui nous distribuons des colis alimentaires. Et aujourd'hui, nous avons battu notre record de collecte en tant qu'Église. On travaille avec la banque alimentaire et s'il n'y avait pas la banque alimentaire là, Didier me fait dire qu'on aurait eu l'équivalent quasiment d'un quart de la distribution, un quart sur des kilos et des kilos de... Peut-être pour vous, c'est un petit pas pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Je crois qu'on peut vraiment aller dans ce sens-là, de laver les pieds. Alors, je pense qu'on peut encore nous prendre une dernière fois, de donner Anastasis. Gloire, gloire au nom du Seigneur. Et merci à chacune et à chacun pour la collecte.
Notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire au nom de notre
de t'appartenir, Jésus. Alléluia. Si t'as été interpellé par ce message et que t'as été encouragé à servir, rendez-vous aux apéros Start. Si dans ton cœur t'as été challengé ce matin, que Dieu est venu te parler et puis que tu dis j'ai besoin de prière, je fais face à des défis, il y a toute une équipe d'écoute et prière qui va se tenir sur ma gauche un instant. On demandera au rang le plus à gauche de libérer rapidement pour pouvoir laisser cet espace d'intimité, pour pouvoir être encouragé par des frères et sœurs qui vont vous laver les pieds. Ils vont prendre la serviette sale pour que vous puissiez repartir en paix ce matin. Amen. On salue aussi tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine.